Je veux vraiment parler de cette opération de la GRC. La GRC qui a mené une opération très, très, très importante pour, dans le fond, arrêter les opérateurs d'un réseau de blanchiment d'argent. Et l'enquêteur responsable de l'enquête, c'est Sergent François-Olivier Millette, enquêteur à l'unité mixte des produits de la criminalité à la GRC. Bonjour, François-Olivier Millette.
Bonjour, M. Drainville.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des dessous de cette opération-là? Et je peux pas faire autrement que de me dire, les gens que vous avez arrêtés, il y en a là-dedans qui blanchissaient l'argent d'El Chapo, non?
Non, malheureusement, je pourrais pas dire que les gens blanchissaient l'argent d'El Chapo. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y avait certainement des trafiquants de la région de Montréal qui utilisaient les services de notre organisation visée par l'enquête. C'est une organisation, en fait, qui consistait d'un réseau composé de deux groupes, deux organisations distinctes, et une basée à Montréal et l'autre à Toronto. Et c'est vraiment au travers de l'association des deux groupes qu'on était en mesure d'offrir les services de blanchiment. Service de blanchiment qui était en deux volets, disons. Le premier qui était celui de permettre de transférer des fonds ailleurs dans le monde, dans d'autres juridictions, par exemple en Colombie et au Mexique, sous le couvert de l'anonymat, donc sous les radars de vérification des autorités, avec un système informel de transfert de valeur qui est aussi connu sous le nom de Hawala. Et un deuxième service qui consistait plutôt à offrir un service de blanchiment, à savoir ce qu'on en connaît, la définition plus connue par le grand public, c'est-à-dire de masquer l'apparence illégitime d'une source de revenus pour permettre à des criminels de faire l'acquisition d'actifs, par exemple.
OK. Mais là, vous me parlez de notre service, là. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous parlez du service des gens que vous avez arrêtés ou est-ce que vous parlez de l'opération que vous avez mise en place pour les capturer?
Non, je parle du service l'organisation visée par l'enquête.
OK. C'est parce que c'est déjà arrivé par le passé que les policiers mettent sur pied des espèces d'opérations factices et que ce soit de cette manière-là qu'ils finissent par mettre le grappin sur les criminels, là.
Oui, en effet, ça s'est déjà vu par le passé. D'ailleurs, un projet de la division ici, d'il y a quelques années, dont le nom m'échappe. Mais effectivement, non, dans ce cas-ci, on parle pas de ça. On parle vraiment d'une enquête de terrain et d'une enquête financière. Donc, on a identifié les joueurs qui étaient responsables de faire la cueillette des sacs d'argent des groupes criminels et d'en faire la livraison à Toronto, dans l'organisation torontoise.
Mais quand on lit là que dans le cadre de votre enquête, vous avez arrêté donc des suspects qui blanchissaient l'argent des narcos de Colombie et de Mexique et du Mexique. Ben, à ma connaissance, le cartel de Sinaloa que dirigeait El Chapo est encore l'un des principaux, sinon le principal cartel de drogue et pour ne pas dire de cocaïne au Mexique. Et si les gens que vous avez arrêtés blanchissaient l'argent des narcos mexicains, ben ils blanchissaient très certainement l'argent du cartel de Sinaloa, non?
Mais en fait, les services qui étaient offerts étaient, comme j'expliquais, un service permettant de transférer des fonds du Canada vers des pays exportateurs. Donc, il est possible qu'effectivement le cartel de Sinaloa ait pu recevoir des sommes de trafiquants de stupéfiants de la région de Montréal ou du Canada, mais l'enquête n'était pas axée sur ça, mais plutôt sur le volet blanchiment et donc sur l'organisation en tant que telle qui offrait les services aux groupes criminels.
Donc, c'était des criminels d'ici. Ce que vous me dites, la distinction que vous faites, c'est que c'était pas des criminels, c'était pas de l'argent qui provenait du Mexique, c'est de l'argent qui provenait de criminels qui vivent ici au Canada, en particulier à Montréal et Toronto. Absolument. Et le réseau que vous avez arrêté, c'est des gens qui prenaient cet argent-là, qui lui faisaient suivre un circuit, notamment par le Moyen-Orient, et qui permettaient donc aux groupes criminalisés d'ici d'avoir de l'argent propre en bout de ligne, là.
Soit d'avoir de l'argent propre ou de pouvoir avoir des sommes dans des pays exportateurs sources tout en les transférant à l'abri des vérifications, donc sous le couvert de l'anonymat.
Donc, c'est l'argent de la mafia italienne, l'argent des Hells, c'est cet argent-là que les gens que vous avez arrêtés blanchissaient?
Mais comme je vous disais, nous, l'enquête était vraiment visait vraiment l'organisation de blanchiment. Donc, on a identifié des cellules d'importation, et puis pour permettre de bien salir l'argent qu'on voyait être transigé dans nos organisations, nous avons fait des saisies de stupéfiants. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire si ces cellules d'importation-là étaient directement reliées à une organisation ou à une autre. Mais évidemment, pour être au niveau des importations, il faut avoir des liens avec des groupes connus comme ceux que vous avez mentionnés.
Ben oui, parce qu'une fois que tu l'importais, faut que la bande, la dope, là.
Évidemment.
Puis c'est qui a les réseaux? Ben, en tout cas, les Hells, on le sait, ils ont un immense réseau de distribution sur le territoire.
Évidemment, les Hells comme d'autres. Oui.
Voilà. Puis ce qui est recyclé, ce qui est blanchi, c'est les bénéfices des ventes.
Oui, mais ici, on parle aussi de blanchiment dans sa plus simple expression. Là. On peut seulement transporter ou transférer le fruit d'une infraction, notamment la vente de stupéfiants, et on parle de blanchiment. Donc, on ne parle pas nécessairement là, de méthodes compliquées pour camoufler l'origine. On parle tout simplement d'être capable de prendre un sac d'argent ici et puis de rendre la somme disponible en valeur équivalente en monnaie locale ailleurs pour notamment payer des fournisseurs ou pour payer d'autres transactions.
Alors, comment ça marchait? Mettons, il arrivait avec un sac, une poche de hockey bourrée d'argent. Qu'est-ce qui se passait?
Bien, à ce moment-là, il y avait un échange clandestin qui avait lieu. Donc, normalement, l'échange clandestin se fait avec ce qu'on appelle un token. Donc, un token, c'est vraiment un billet de banque. On prend le numéro de série sur un billet de banque. Donc, la personne qui est responsable d'aller collecter le sac d'argent a en sa possession plusieurs billets. Il donne à son organisation le numéro d'un billet qui va être attitré à une seule transaction. Ce numéro-là passe par l'organisation de blanchiment et transmis à l'organisation du stupéfiant, redescend jusqu'au courrier qui doit aller livrer l'argent. Et au moment où le courrier faisant la livraison de l'argent aux membres de l'organisation de blanchiment qui en fait la cueillette, identifie la personne au moyen du numéro, compare le numéro qu'on lui a donné avec le billet en la possession du membre. Et donc, à ce moment-là, peut exiger même de garder le billet. Ça, c'est son reçu de transaction.
OK. Puis là, il arrive quoi avec le fric qu'il y avait dans la poche de hockey?
Ensuite, le fric était acheminé directement à Toronto, dans l'organisation de Toronto. Et à ce moment-là, il était gardé ici au Canada et servait à écouler, était écoulé au travers de différentes transactions qui, elles, arrivaient de l'étranger, mais qui, tout comme dans celles que je vous ai mentionnées, étant donné que c'était des transactions informelles, les transactions ne se matérialisaient pas. Elles étaient payées ici au niveau domestique avec l'argent sale.
OK. Ça servait à acheter quoi, par exemple?
Ben, je sais pas, par exemple, ça peut être aussi simple que quelqu'un qui voulait effectuer un transfert à partir d'un pays du Moyen-Orient vers le Canada. Mais plutôt que l'argent se transfère, l'argent était gardé là-bas et l'argent était déposé sous forme d'argent comptant dans un compte bancaire ici. Et l'argent accumulé au Moyen-Orient pouvait ensuite servir pour payer autre chose.
Ah.
Donc, c'est vraiment le concept de prendre dans sa poche de gauche et de remettre à partir de sa poche de droite. C'est comme ça que fonctionne la voilà.
OK, fait que l'argent ne quittait pas le Canada.
Non, l'argent ne quitte pas le Canada.
L'argent reste ici, mais on prétend que ce montant d'argent-là est déposé ailleurs et ce ailleurs devient l'argent propre.
On en transfère la valeur. C'est ce qu'on fait. On en transfère la valeur et on utilise l'argent sale à notre disposition ici pour compenser d'autres transactions qui, elles, sont entrantes et qui peuvent être par ailleurs légitimes.
Les chances que vous réussissiez à les faire condamner?
Ben, je vous dirais qu'on a travaillé très fort afin d'accumuler de la preuve. On a quand même un très bon niveau de preuve. Et puis, on a travaillé également sur notre divulgation. Alors, je vous dirais que maintenant, c'est entre les mains de nos collègues du SPPC. Mais selon moi, les chances sont très bonnes.
Poursuite pénale du Canada. Très bien. Ben, c'est du bon boulot, sergent François-Olivier Millette. Alors là, vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps avec votre famille.
Oui, quoique les processus judiciaires sont également très, très ardus. Alors,
oui.
Mais bon. Je vous remercie beaucoup.
Oui, c'est du bon travail. Vous n'êtes pas vieux, vous, si vous permettez? Là, c'est un peu inhabituel comme question. Vous avez quoi, fin trentaine, début quarantaine?
Dans la quarantaine.
Oui, fait que vous avez d'autres belles enquêtes comme ça devant vous. On vous en souhaite plusieurs qui, on l'espère, réussiront aussi bien que celle-là.
On l'espère.
À la prochaine.
Merci. Au revoir.